L'épluche livre.
Vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strate, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de la potarde,
du pain de beurre. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Une fois n'est pas coutume, je vous propose de commencer cette émission en chiffres. En 2023, selon le ministère de l'Intérieur, 93 femmes ont été victimes de féminicides. 319 femmes ont été victimes de tentatives de féminicide. 230 000 femmes ont été déclarées victimes de violences commises par leur partenaire ou ex-partenaire. Sachant qu'en moyenne, une femme sur quatre seulement signale les violences qu'elle subit. Ces chiffres sont terribles et malheureux. Cette réalité est documentée par l'État, les forces de l'ordre, lorsqu'ils acceptent de prendre la plainte, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, par des autrices, graphistes, essayistes, illustratrices. Les livres, encore et toujours, sont un support de témoignages, de lutte et d'espérance.
M comme moi.
Non, moi, 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 moi.
Marcel monte sur sa moto et va au marché vendre des mirabelles. Marcel monte sur sa moto un matin de mai avec son marmot.
Notre invitée aujourd'hui est Priscille de Reckener.
Bonjour Daïdré.
Bonjour. Merci d'être au micro de cette émission.
Ben, merci à vous pour l'invitation.
Avec plaisir. Vous avez écrit un titre, donc c'est un roman graphique intitulé Le cœur à contresens, édité aux éditions Erol.
Oui, c'est ça.
C'est bien ça. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre ouvrage ?
Eh bien, l'ouvrage, du coup, c'est comme vous dites, un roman graphique, pour dire bande dessinée, en fait, c'est exactement la même chose, et qui est donc une fiction qui raconte une histoire d'amour qu'on peut croire et qui, en fait, cherche à peut-être faire découvrir qu'en fait, ce n'est pas de l'amour et c'est une emprise. Et je n'en dis pas plus, peut-être.
D'accord. Est-ce que vous aviez eu déjà écho des chiffres cités dans l'introduction de l'émission ?
Oui, bien sûr. Alors, je ne les ai jamais en tête, mais je sais qu'ils sont beaucoup trop.
Je les ai révisés. Hein,
voilà.
Je ne les avais pas en tête.
Puis, ils évoluent, donc...
Tout à fait.
Mais je crois qu'ils n'évoluent pas forcément comme on l'aimerait. Donc...
Alors, justement, ils évoluent à la hausse, bien
ouais.
sûr, entre guillemets, pour le bien sûr. Mais c'est surtout qu'en fait, il y a une parole qui s'est libérée depuis
oui.
quelques années. Donc, depuis MeToo, mais aussi depuis
fait.
De nombreuses prises de conscience et d'après ce que j'ai compris de mes documentations depuis la libération donc, de la parole et une manière différente aussi d'éduquer les filles et de leur permettre en fait, finalement d'être elles-mêmes. Donc c'est un sujet vous, qui vous parle personnellement ou de manière professionnelle ?
Bien sûr, c'est un sujet qui me parle, sinon j'en aurais pas fait une bande dessinée, c'est évident. Et c'est justement le sujet en fait, pour ma part qui m'a amenée à ce type de média. C'est vraiment parce que j'avais autour de moi beaucoup trop de... J'avais l'impression que toutes les femmes autour de moi étaient... subissaient des... On peut appeler ça des emprises. Je trouve que c'est peut-être le mot qui est le plus... voilà, je ne veux pas mettre d'autres termes parce que j'en ai pas d'autres plus justes. Mais,
Est-ce que vous pouvez définir justement ce qu'est une emprise ?
Eh bien, une emprise, du coup, je pense que c'est à partir du moment... Et puis alors là, voilà, je prends le biais de la relation amoureuse, mais bien sûr, c'est quelque chose qui existe partout. C'est-à-dire mm-hmm. que ce soit en amitié, dans le professionnel, même dans les familles parfois. Alors voilà, là, j'ai pris ce biais-là parce qu'autour de moi, c'est ça que j'observais le plus. Mais oui, emprise, pour moi, c'est à partir du moment où une personne cherche à prendre le contrôle sur une autre.
Mm-hmm.
Et... ça suffit peut-être déjà à définir ça. Et alors, c'est pas moi qui... En fait, je tiens ça de... Il me semble que c'est Isilde Lebesco qui avait utilisé ces termes-là.
D'accord.
Pour justement définir l'emprise qu'elle-même a subie et qu'elle a racontée. Et je trouvais que c'était très, très juste, le fait de prendre le contrôle, essayer en tout cas de prendre le contrôle sur une personne.
D'accord. Donc, il y a différentes manières de prendre le contrôle. Alors, on va quand même un petit peu plus pousser, sans tout révéler de l'histoire, bien sûr. Je vais vous embêter un petit peu. Pousser un petit peu donc, sur les personnages de cette histoire. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Déjà, le personnage principal, la jeune femme?
Oui, bah, la jeune femme, du coup, s'appelle Selma. Alors, elle vit dans le sud de la France. Donc, en fait, l'histoire se déroule au moment des couvre-feux, donc 2021, une époque qu'on a tous très connue. Et donc voilà, dans ce contexte très particulier où on est tous un peu isolés, etc., elle matche avec quelqu'un sur une application de rencontre. Mm-hmm. Et bien sûr, le début est extrêmement... se passe très bien. C'est vraiment ces papillons dans le ventre, l'amour comme on nous le raconte de ses débuts et qu'on attend parfois un peu trop toutes. Et voilà, on va suivre donc cette histoire d'amour qui n'en est pas.
Oui, qui n'en est pas ou qui du moins pas une histoire d'amour.
Non.
On peut dire saine peut-être.
J'ai envie de dire, à partir du moment où une relation n'est pas saine, ce n'est pas de l'amour. Enfin, pour moi, c'est vraiment mon point de vue sur ça.
D'accord, ok. Comment s'est construit ce titre pour vous? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, vous avez parlé effectivement de votre entourage personnel, féminin, qui peut-être, vous avez des figures autour de vous donc, qui vivent des emprises, des situations d'emprise. On s'en rend d'ailleurs, quand on est les premières concernées, on ne s'en rend pas compte en général, d'après ce que j'ai compris.
Il y a un système d'œillères et de déni qui est vraiment très spécifique justement à la mise sous emprise, qui est très délicat. Et en fait, oui, moi j'ai eu cette sensation d'impuissance face à mes proches, et même moins proches, hein, c'est-à-dire que ce soit... et aussi, j'ai envie de dire que c'est toutes générations confondues, c'est-à-dire que ça peut être des personnes qui ont mon âge, comme moins, comme plus, que ce soit une amie, une connaissance, une voisine, une tante, ça peut être vraiment n'importe qui. Elles nous entourent toutes, ces femmes qui sont sous emprise, j'ai l'impression. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai eu, et c'est ça qui m'a créé ce sentiment d'impuissance face à la relation aussi d'une amie qu'elle avait, où c'était très difficile pour moi de garder un équilibre et de savoir où me poser pour pouvoir continuer de l'aider et en même temps sans qu'elle me rejette. Et donc voilà, vraiment cette impuissance, je pense, a fait naître en moi une colère qui m'a donné envie de faire quelque chose de ça.
D'accord, donc pourquoi par le roman graphique?
Alors pourquoi, je pense que ça m'est venu naturellement, mais maintenant avec le recul, je pense que la bande dessinée permet en fait y a une force dans la bande dessinée qui est de pouvoir être complètement immergé dans quelque chose, parce que voilà, c'est visuel, on lit, il y a un imaginaire qui se crée je pense que il y a quelque chose d'émotionnellement très fort qui se crée quand on lit un roman graphique.
Vous êtes lectrice de BD?
Oui, bien sûr. Alors plutôt récente, mais oui quand même. et donc en fait je trouve que la force de ça, c'est de pouvoir être immergé tout en gardant un recul qu'on n'aurait pas dans la réalité.
D'accord.
Parce que, en fait, quand on est plongé dans une réalité, voilà, typiquement une emprise, on ne se rend pas compte de ce qui se passe, on n'a pas tout est flou, on ne se rend plus compte de rien et on ne peut pas avoir un recul suffisamment nécessaire pour comprendre le mécanisme, parce que c'est vraiment un mécanisme. Je me suis dit, le roman graphique va permettre ça, peut-être, si j'y arrive, de montrer le mécanisme, de montrer les conséquences de ce mécanisme en étant immergé dedans de manière à ce que ça laisse une trace émotionnelle suffisamment forte pour le comprendre. Et comprendre son importance et en même temps d'avoir un recul et de dire « Ah, mais oui, c'est comme ça que ça se passe. »
Est-ce que vous pouvez nous décrire le mécanisme dans les grandes lignes?
Oui, alors je suis vraiment personne pour faire ça, mais c'est-à-dire
vous
voilà, moi, c'était aussi mon parti pris de faire une fiction dans le sens où voilà, moi, je ne suis pas psychologue, enfin, c'est pas mon métier, j'ai pas envie d'utiliser des termes que je ne suis pas apte à utiliser. Mm-hmm. C'est pour ça que je prends emprise, ça me semble ce qu'il y a de plus juste, mais voilà, c'est quelque chose qui... Il y a toujours ce schéma, en tout cas dans une relation amoureuse. Mais je pense que quand c'est amical, etc., c'est assez, très similaire. En fait, ce qui est fou, c'est que c'est toujours des histoires différentes, mais la trame est toujours exactement la même, avec cette première phase d'accroche extrêmement... extrêmement forte et positive, et on se sent, on rencontre la personne, elle nous submerge d'amour elle nous survalorise, donc bien évidemment qu'on s'accroche à ça. Et en fait, ça, c'est fait pour laisser une empreinte très, très forte à la personne, pour qu'après, quand ça va se dégrader, elle se dise « Ah, mais avant, c'était comme ça », et cet espoir va permettre de rester accroché, parce que le cerveau humain est fait comme ça, quand quelque chose lui plaît, il a envie d'y revenir forcément. Et donc en fait, c'est ça qui se passe, c'est qu'il y a une phase croissante et extrêmement agréable à vivre, presque trop, parce que c'est presque, il y a une espèce d'euphorie là-dedans. Et après, il y a un moment où ça switch et c'est tout l'inverse, et c'est la dégringolade et c'est la dépréciation insidieuse, etc. Et bon, il y aurait beaucoup de choses à expliquer, mais c'est un peu long quand même.
Oui, à chaque fois, ça reste quand même de grandes étapes
qui sont reconnues
dans la relation et qui sont parfaitement reconnaissables.
Absolument. Ouais. Donc. Ah oui, moi je trouve que c'est ça. En fait, c'est pour ça que je dis que c'était des gens très proches à moi, comme des gens que je pouvais croiser à une seule soirée. Elle me racontait leurs histoires et j'étais là, mais c'est pas vrai, c'est ça. C'est sûr, elle le sait pas, mais c'est ça qu'elle est en train de vivre. Et parce que c'est, une fois qu'on l'a compris, qu'on l'a observé et qu'on comprend ces étapes, on est quand même plus apte à les reconnaître, à les comprendre, à les voir arriver, si je puis dire. Et en fait, c'est ça aussi qui m'a donné envie de faire cet ouvrage, c'est de me dire, si on est plus nombreux à connaître ce mécanisme, on sera plus nombreux aussi à le repérer en amont.
Quels ouvrages avez-vous lus, si c'est le cas, pour comprendre mieux vous-même ce mécanisme ?
Alors honnêtement, c'est vrai que ce n'est pas des ouvrages qui m'ont fait vraiment comprendre le mécanisme, malheureusement, j'aurais préféré, mais c'est plus vraiment ce que j'ai côtoyé auprès de mes proches.
C'est une expérimentation, finalement.
Ouais. Mais personnel. Après, sinon, en termes d'ouvrages qui en parlent très bien, et en plus qui est vraiment, en fait, il me semble que la première bande dessinée qui a parlé de ça, elle date maintenant un petit peu et elle est très bien faite dans le sens où voilà pareil, il y a une première partie fiction qui raconte, donc c'est une personne qui raconte son histoire, et la deuxième partie elle donne vraiment des clés, tout comme une sorte de guide pratique pour s'en sortir pour les femmes qui sont dans cette situation là donc c'est vraiment un ouvrage qui je pense peut être donné et qui s'appelle donc Tant pis pour l'amour de Sophie Lambda, donc pareil c'est une bande dessinée.
D'accord.
Et sinon, après, des ouvrages que j'ai lus après coup, après avoir sorti ma bande dessinée, qui sont assez récents, il y a donc l'ouvrage de Isilde Lebesco, dont je parlais, qui s'appelle Dire vrai. Et en parallèle, j'avais lu aussi un peu au même moment celui de Judith Chemla, l'actrice, qui se nomme Notre silence nous a laissés seuls.
D'accord.
Et en fait, toutes les deux, elles prennent vraiment la plume pour raconter leurs histoires personnelles et qui sont des emprises. Je ne sais plus si elles utilisent le terme ou non, mais en tout cas, ce qu'elles décrivent, on sent vraiment ces similitudes dans les parcours de vie. Et il y a parfois des mots qui sont exactement les mêmes, alors que bien sûr, leurs histoires sont différentes, mais les mots sont les mêmes, le mécanisme est encore le même. Et ceux-là, je les ai lus, mais je sais que je n'en lirai pas forcément plus, parce qu'après, c'est lourd à lire aussi. Mm-hmm. Mais ces deux ouvrages-là m'ont fait dire, mais c'est fou, à chaque fois, encore, les mêmes choses.
Ouais. On va faire une petite pause, chers auditeurs. Nous allons écouter le titre choisi par notre invité. Off this island, this was an escape plan. Carefully timed it, so let me go and dive into the waves below. Who tends the orchard? Who fixes up the gables? Emotional torture from the hilly high table. Who fetches the water?
Stabbing with your fork. I know you're a smart man. I know you're a smart man. And weaponized the false incompetence. It's dominance under a guy. If
24/7 baby machine, so he can live out his picket fence dreams. It's not an act of love if you make her, you make me do too much labor. All day, every day, therapist, mother, maid, nymph, then a virgin, nurse, then a servant, just an appendage, lift to attend him so that he never lifts a finger. 24/7 baby machine, so he can live out his picket fence dreams. It's not an act of love if you make her, you make me do too much labor. All day, every day, therapist, brother, maid, nymph, then a virgin, nurse, then a servant, just an appendage, lift to a standing, show that he never lives a labor. 24/7 baby machine, so he can live out in his picket fence dreams. It's not an act of love if you make her, you make me do too much labor.
Chers auditeurs, bonjour à nouveau. Nous sommes en compagnie de Priscille de Reckener, qui a écrit « Le cœur à contresens, histoire d'une emprise amoureuse » et qui a choisi le titre musical que nous venons d'écouter. Est-ce que vous pouvez nous nommer ce morceau et nous expliquer pourquoi ce choix ?
Donc le morceau, il s'appelle « Labor » de Paris Paloma. Et donc en fait, je l'ai choisi par rapport au fait que je trouvais que c'était un miroir assez... un miroir par rapport au roman graphique, donc du cœur à contresens. Même par rapport au clip, c'est-à-dire qu'on sent en fait cette... elle parle clairement d'une situation où elle est dans sa relation qui l'oppresse. Elle parle de vouloir fuir, de préparer sa fuite, qu'elle parle de torture émotionnelle. Et en fait, je trouve qu'on le sent assez bien, même dans le clip où il y a une espèce d'oppression. Elle est dans un lieu clos comme ça avec son mari qui mange comme un glouton, et elle, on sent sa colère monter, comme une espèce de charge mentale qui vient vraiment réveiller sa colère. Et en fait, je trouve que la colère, elle est hyper importante. En tout cas, moi, j'essaye de la mettre en valeur dans le livre, et parce qu'elle peut parfois déclencher des bonnes solutions et des bonnes décisions. Donc, voilà.
Ok. C'est votre premier livre, si je ne me trompe pas.
Tout à fait.
Oui.
Première BD, premier livre, premier tout.
Premier tout. Quel est votre métier, si vous avez un métier à côté d'être
autrice ?
Oui,
oui, bah, oui, malheureusement, les auteurs ont toujours un métier à côté.
Très souvent.
oui, pour la majorité. Oui, je suis graphiste à mon compte et illustratrice aussi, en parallèle.
D'accord. Et pas forcément dans l'édition ?
Ça peut pour l'édition, mais pas que. Ouais, ouais. Ça peut être la presse, ça peut être le privé, le public, des marques, des non-marques, donc, plein de choses, c'est très vaste.
Pour vous, finalement, donc, ce premier livre est une expérience toute neuve ?
Absolument, complètement.
Comment ça s'est passé pour vous ?
Ah bah, tout était, c'était de la découverte à chaque étape. Hein. Honnêtement, je me suis lancée là-dedans, je pense par naïveté, parce que vraiment, je ne savais absolument pas à quoi m'attendre. Je n'avais aucune base de formation là-dessus, même si je dis, voilà, je suis illustratrice, mais ça, c'est complètement en autodidacte. Moi, mes formations, c'est voilà, le graphisme, etc., plus la communication, en réalité. Et je me suis lancée là-dedans, voilà, par cet élan de raconter. Et je me suis dit, bon, normalement, dessiner, je vais pouvoir y arriver. Écrire quelque chose, je vais pouvoir y arriver. Et je suis partie qu'avec ça comme valise. Et en fait, voilà, j'ai découvert petit à petit. Alors, c'était, je pense que j'aurais su, j'y serais pas allée. Mais bon, bah, une fois que j'y étais, il fallait terminer. Et maintenant, j'ai envie de continuer parce que je trouve ça extrêmement fort comme média. Donc,
Si vous aviez su, vous n'y seriez pas allé. Que s'est-il passé?
Bah, c'est très dur en réalité. En fait, ne serait-ce que tout le processus de trouver un éditeur, c'est extrêmement difficile. J'ai eu la chance d'en trouver un, mais honnêtement, j'aurais très bien pu ne jamais en trouver. Et je pourrais être encore en train de chercher pour éditer celle-là. Je pense qu'on est beaucoup de gens sont confrontés à ça. Il y en a, ils mettent 10 ans à trouver. Bon, bah voilà, moi, ça a été un an, ça m'a paru une éternité, et pourtant, ça a été assez rapide finalement. Et puis après, le processus de création, c'est-à-dire que moi, l'écriture a été assez rapide, mais après, le dessiner, quand on dit il n'y a plus qu'à dessiner, c'est très très long. Moi, je n'avais aucune idée du temps que ça pouvait prendre. J'avais dit, allez, en un an, je vais même pas, en moins d'un an, je voulais finir ça. Bon, bah, c'était un peu naïf de ma part, mais j'ai tenu, je l'ai fait. Mais oui, la bande dessinée, c'est très introspectif comme travail.
Et c'est très intéressant parce que, en général, une bande dessinée, nous, on a quelqu'un au scénario, on a quelqu'un au dessin, on a quelqu'un aux couleurs, on a souvent aussi quelqu'un qui est spécialiste du sujet pour la relecture, pour éviter. Donc, voilà, quand c'est une BD historique, par exemple, il y a souvent un historien qui chapote. Là, vous avez tout fait.
Oui.
Vous avez écrit le scénario, vous avez imaginé les personnages. Qui sont peut-être inspirés de personnes que vous connaissez ou pas du tout?
Alors, la limite entre est-ce que c'est inspiré ou non, elle est tellement difficile à dire, dans le sens où, en fait, dans cette histoire, rien n'est vrai et tout est vrai. C'est-à-dire que, voilà, ce personnage, il est construit de toutes les personnes qui m'ont raconté plus ou moins leur histoire, que j'ai entendu, qui m'ont traversé, en tout cas. Donc, non, cette personne n'existe pas, mais cette personne existe... à plein d'endroits. Et je m'en rends encore plus compte avec les retours que j'ai depuis qu'elle est sortie. Où il y a même des personnes qui me disent « Mais c'est mon histoire, j'ai vécu la même histoire. » Tous ces retours-là sont énormes.
Et alors ça, c'est assez intéressant aussi. On passe un peu du coq à l'âne, mais comment est perçu... Donc, alors, déjà, peut-être en premier lieu, pour votre entourage proche qui vous a inspiré cette histoire, comment est perçu ce roman graphique? Et ensuite, dans un second temps, comment le défendez-vous? Alors, par défendre, j'entends, comment le proposez-vous? Comment l'amenez-vous entre les mains des lecteurs et des lectrices?
Bah alors, moi, en réalité, je ne l'amène pas dans les mains. J'espère qu'il tombe dans leurs mains comme par magie. Et ça, c'est la magie des librairies, du coup, et des gens qui vont la conseiller. Mais moi, je ne suis pas là. En fait, moi, maintenant, elle fait sa vie sans moi. Donc, par contre, voilà, c'est vrai que quand je suis au contact des futurs lecteurs, parce que quand je vais des salons, par exemple, la Comédie du Livre le week-end dernier, en fait, comme je ne suis pas connue, les gens viennent parce que la couverture, éventuellement, c'est ce sujet, je feuillette, ça m'intéresse peut-être pour moi ou parce que je connais quelqu'un qui, ou voilà, et pas que des femmes aussi, je pense que c'est important de le souligner. Et donc moi, non, je ne l'amène pas, mais quand je vois qu'il donne envie d'être attrapé, je suis très touchée.
D'accord.
Et encore plus quand on me dit, quelqu'un le lit et me fait un retour et me dit, je vais le passer à mon frère, je vais le passer à ma sœur, Et je dis oui, c'est la meilleure chose qui puisse être faite, c'est de le transmettre et de se le faire passer et d'avoir envie de le partager, en tout cas.
Et je reviens, parce que c'était une question double, je reviens donc à la première question. Comment est-ce que ce titre a été perçu par votre entourage proche?
Du coup, mon entourage proche, c'est vrai que je l'avais fait relire à une personne qui m'est très proche et qui était consciente du sujet et qui en est sortie. Et voilà, donc quand j'ai eu son retour, qui je pense n'était de toute manière pas très objectif parce qu'on est très proche et je sais que...
Son retour, c'était avant parution ou après?
Oui, c'était au moment où j'avais écrit le scénario, où rien n'était dessiné, mais tout était écrit, comme une pièce de théâtre finalement. Et donc oui, elle l'avait lu et... Et voilà, à son émotion, elle m'a donné sa validation, j'imagine, entre guillemets. Voilà. Et après, par contre, des personnes qui l'ont lu une fois sorti, les personnes qui auraient pu se sentir concernées, je ne sais pas si ça a été le cas ou non, je ne sais pas trop.
D'accord, des retours assez vagues.
Oui, voilà. En tout cas, des félicitations, ça c'est sûr, et beaucoup de bienveillance et d'encouragement. Mais après, d'un point de vue de est-ce que ça a parlé, est-ce que ça a fait écho, je pense que oui, mais on n'en a pas reparlé derrière.
Et donc, vous étiez à la Comédie du Livre.
Oui.
Comment ça s'est passé?
Ça s'est super bien passé. Honnêtement, c'était un super événement d'avoir la chance d'être présente à un aussi gros événement. Bon, après, c'est aussi parce que j'étais locale, j'imagine. Mais c'était super. En fait, c'est toujours hyper touchant de voir que finalement l'ouvrage peut interpeller et donner envie d'être lu malgré un sujet qui est quand même pas le plus qui donne le plus envie par sa gaieté, on va dire. Et donc de se dire qu'il va être encore partagé, qu'il va continuer sa vie, et de pouvoir échanger avec les gens sur ces sujets-là, parce que du coup après forcément ça ouvre le débat. Je demande mais pourquoi est-ce que c'est le sujet qui vous donne envie de le lire, et qu'ils me répondent oui parce que si. Et donc là j'ai des témoignages à chaque fois en temps réel, et c'est intense comme discussion, même si à chaque fois c'est très court, c'est intense.
Ouais, donc il y a une émotion, une charge émotionnelle pour gérer là-dessus.
Oui, alors à gérer, je me sens très chanceuse de pouvoir accueillir ces paroles-là, mais oui, il y a des fois où on me raconte des parcours de vie à chaque fois qui sont ce que je raconte. Donc oui,
c'est pas rien.
C'est dur à entendre, mais en même temps, ça valide le fait qu'il faut continuer d'en parler. Donc.
Peut-être pour terminer cette émission, nous à la librairie, on a trois titres qu'on aime beaucoup. Bon. Sur ces sujets, mais pas que, qui ouvrent aussi. Donc, on va avoir un titre de Lucile Pétavin. Je ne sais pas si vous le connaissez, Le coût de la virilité.
Non.
Lucile Pétavin, donc c'est mon livre de poche maintenant, a étudié, mais de manière très documentée, très chiffrée, combien coûte la virilité, le virilisme en fait, la surreprésentation du macho à la société. Sachant que les prisons, y a 98% d'hommes en milieu carcéral. C'est une première statistique, il y en a plein d'autres. C'est plusieurs dizaines de milliers d'euros par an qu'on pourrait économiser si nous étions dans une société un petit peu plus égalitaire et respectueuse. Donc ça, c'est pour le petit côté essai, ça se lit très très bien, c'est très chouette. Il y a un roman qui est apparu il y a un petit peu plus d'un an, qui est maintenant disponible en poche chez Point, écrit par Tiffany Tavernier, et qui s'intitule En vérité Alice. Donc là aussi, c'est l'histoire d'une emprise. Donc, peut-être plutôt le côté roman par rapport à votre roman graphique, encore très différent dans un milieu très parisien. Comment l'émancipation arrive par un moyen dont on n'attend pas, finalement. Okay. C'est un très, très beau roman. Et Aurélia Blanc, je ne sais pas si vous connaissez Aurélia Blanc, qui est une essayiste qui était venue à la librairie il y a un petit peu plus d'un an maintenant, qui a écrit « Tu seras un homme féministe, mon fils ».
Très bonne idée.
Très bonne idée. Et donc, avec, je pense, le cœur à contresens, on a quand même une belle bibliographie pour parler de ces sujets, pour apprendre toujours.
Et on en
oublie toujours.
Sûrement plein, et il y en a plein, et c'est super.
Ouais, on en oublie plein, et c'est super. C'est justement le livre en tant que média privilégié pour donner la parole, donner le champ libre, et puis toucher le plus de public possible, puisque chaque livre est unique et peut rencontrer son lecteur, sa lectrice.
Et donner envie d'en lire d'autres, etc. etc.
Tout à fait. Merci beaucoup, merci pour toutes ces explications.
Merci beaucoup à vous.
Et pour tout ce que vous faites. Est-ce qu'il y a un prochain livre en cours?
J'espère. J'espère.
Sur un sujet équivalent ou complètement
différent? Alors, pas sur le sujet de l'emprise, mais sur un sujet qui, je pense aussi, peut être intéressant de traiter.
Au top. Merci, chers auditeurs de L'Épluche Libre. Je vous dis à bientôt.
L'Épluche Libre.
Alors, vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire cette recette? Pas grand-chose.
Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Puis ce goût des mots, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange
des cornichons, de la moutarde, du pain du beurre.